Jacinthe qui vient d'arriver en studio. Elle roule vite. Elle l'a vu, elle a dérapé dans le stationnement.
Pour de vrai?
Elle a fait 3-4 fois le tour du poteau pour être certain que le monde la voit. Ben, après ça, elle est allée se stationner.
J'adore ça.
Elle est montée ici en courant. Salut, Jacinthe Varelle. Comment
ça
va?
Ça sait faire des donuts.
Qu'est-ce que tu dis?
Une fille de Québec, ça sait faire des donuts.
Ben oui, ben oui. Es-tu née à Québec même, toi?
Oui.
Ah oui?
Ben ouais.
Dans quel secteur?
Saint-Émile.
À Saint-Émile.
Dans ce temps-là, c'était pas Québec, mais non, maintenant, je peux dire que je suis de Québec.
Puis, t'as-tu passé ta vie à Québec?
Non, j'ai fait mon primaire à Saint-Émile, puis ouais. À l'âge de 10 ans, je suis partie à Donnacona.
À Donnacona.
Donc, je suis dans le comté de Portneuf, là. La majorité de ma vie de jeunesse, ça s'est fait dans le comté de Portneuf.
Je suis content de te voir, en plus, il fait soleil, fait qu'on est gâtés.
Ben ouais.
C'est 8 degrés sur moins 8 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 13. Pour aujourd'hui, on nous parle de 2 à 4 cm de neige. La neige devrait débuter cet après-midi. Pour l'instant, on profite du soleil. Ce soir, de la neige minimum de moins 7. Demain, samedi, ciel dégagé maximum de plus 3. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente maximum de 0. Jacinthe Varelle, tantôt, on jasait avec Étienne-Alexandre Beauregard qui va participer à une conférence à l'Université Laval avec Alex Boissonneau, qui est le député du Parti québécois, et Benjamin Tremblay, qui est le gars de 7 jours sur Terre. Ouais. Puis là, il y a un regroupement féministe qui est bien fâché de voir trois hommes. Comment ils ont dit ça? Des hommes si? C'est quoi ça, des hommes si? Hein?
Ben, c'est comme nous. Là, c'est, on est six genres. On est correct, là, six genres. Là,
on est des hommes six genres.
Ouais, c'est. Je vais retourner le chercher. Là. Ce panel serait donc composé de trois hommes six genres blancs, privilégiés, influents, profondément engagés dans la discrimination et la persécution de pans de la population déjà marginalisés, soit les femmes, les personnes queer, les personnes migrantes, les personnes racisées et les personnes autochtones. Et on s'interroge sur le bien fondé de leur laisser une plateforme pour répandre ces idées sexistes, xénophobes, racistes et même, entre parenthèses, avec un point d'interrogation, fascistes.
Ouais. On sait que tout ça, c'est faux, mais qu'est-ce qui fait, Jacinthe, que ces gars-là, ces trois gars-là qui sont hétérosexuels, blancs, n'auraient pas le droit de se prononcer sur divers sujets de la société? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en est rendu là, selon toi?
Là, je ne défendrai pas le point de vue de ces féministes de gauche, de la gauche urbaine et en bourgeoisie, bien sûr.
La gauche
là, parce que ça fait mal aux féministes, ça fait mal aux femmes, ce mouvement-là, ces prises de position drastiques, radicales-là, extrémistes. C'est des prises de position extrémistes. Et je tiens à le dire, là, parce que ça fait qu'il y a plein de filles qui se disent non féministes parce qu'elles ne veulent pas être associées à ça.
Ah, ça fait
que
bon point, ça.
Ça fait que le féministe fait peur. Moi, j'ai un fils là, qui va au secondaire, là, puis il revient à la maison, puis il dit, moi, le féministe, je compte ça, puis je compte le féministe, puis je dis, attends, t'es contre le féminisme. qui c'est une partie du féminisme qui a été capturée par une gauche urbaine embourgeoisée. T'es contre les idées qu'elles défendent parce qu'elles sont radicales. Mais toutes les féministes de l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire du monde qui ont construit notre égalité, qui nous ont fait arriver à avoir le droit de vote, à pouvoir avoir les mêmes droits que les hommes, faut pas renier tout ça. Alors moi, je continue de dire, je suis une féministe, ouais. Mais je ne m'associe pas à cette frange-là radicale et pour que je ne peux pas défendre. Ça n'a pas de bon sens. Les prises de position qu'elles ont prises, c'est de faire fi d'une grosse partie de l'histoire du féminisme et c'est de faire mal aux femmes et au mouvement féministe.
Puis, parfaitement d'accord avec toi. Puis, sais-tu qu'est-ce qui me fatigue le plus? Puis, je pense que, tu sais, ici, on est trois alliés, là, des
ben
femmes en studio. On a des collègues femmes qu'on respecte, qu'on considère comme notre égale. Puis, je me suis toujours considéré comme un allié. Puis, quand je vois ces regroupements-là nous rejeter du revers de la main parce qu'on est des hommes blancs hétérosexuels, je me dis, tu sais, je changerai pas de bord, m'a toujours été un peu féministe dans l'âme, mais je me dis, il y en a combien de gars qui vont décrocher comme
ben
ça?
Oui.
Okay, si vous me rejetez constamment,
ben oui.
Tu sais quoi, je vais juste tout simplement faire mes petites affaires. Ces gens-là, dans les années 80, là, qui sont des extrémistes, on les rentre à Robert Giffard. Là. Pourquoi on les tolère en 2026?
Ben ça, il faut, au moins ouvrir le débat sur c'est quoi le féminisme et pourquoi on est rendu à avoir des prises de position radicales comme ça par des jeunes femmes qui sont complètement déconnectées de l'histoire du mouvement féminisme et qui versent dans l'extrémisme comme ça et elles semblent pas conscientes qu'avec leur prise de position radicale et extrémiste, elles encouragent, nourrissent l'autre extrême. Ouais. On blâme, là, c'est dans l'air du temps. Hein. On dit, ah, le masculinisme est en montée, on a bien peur de ça dans les écoles secondaires, sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est nourri quelque part. C'est mutuellement nourri. Là. Je ne peux pas dire que le masculinisme naît à cause de... Mais mutuellement, mais, ces mouvements ouais. extrémistes-là où on positionne l'homme contre la femme, ça, où on positionne l'homme comme un prédateur face à une proie victime de femme, ça n'a aucun sens. Les deux s'alimentent dans une espèce d'haine et d'opposition, alors qu'on est complémentaires. L'homme et la femme sont complémentaires dans tout.
Si on parle de deux groupes là, qui sont aux extrêmes, ouais. qui sont même pas 5% de la population, mais je les enverrais se suivre des thérapies des fois, parce que je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Puis il y a des choses dont on doit discuter dans la population, entre autres l'immigration. Je connais pas quiconque autour de moi n'est pas anti-immigration. La plupart, on est pro-immigration, mais une immigration qui est contrôlée pour bien faire rentrer ces gens-là dans notre société, puis qu'ils puissent avoir accès aux mêmes choses que moi, je peux avoir accès, c'est-à-dire à l'éducation, à la santé, profiter des infrastructures, les garderies, patati et patata. Mais si on les fait rentrer chez nous, on leur donne pas de job, on les condamne à la pauvreté, bien, la pauvreté peut amener certaines problématiques sociales aussi. Fait que de voir que ces gens-là nous rejettent, je sais pas, je trouve ça très particulier. Heureusement, ils vont tenir la conférence quand même jeudi prochain, mais anyway, on aura l'occasion d'en reparler. Autre chose qu'on a vu ce matin, Jacinthe-Ève, qu'on voulait jaser avec toi, c'est la gang d'enquête de Radio-Canada qui a envoyé une jeune fille de 14 ans chez un médecin. C'est une femme médecin et elle était déjà reconnue comme étant une personne qui traitait quand même assez bien les gens qui semblaient avoir des problématiques avec leur genre. C'est une médecin aussi qui était très à l'aise de traiter la communauté LGBTQ+2 comme tous les autres médecins, selon moi, du Québec. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'avec une consultation de 9 minutes, puis moi puis Jeff, on a bogué un peu sur le 9 minutes. Hey, là.
Tu le dis, toi.
La jeune fille de 14 ans, qui n'était pas accompagnée de ses parents, a réussi à avoir une prescription d'hormones mâles, donc de la testostérone, pour amorcer sa transition. Alors qu'on lui a pas fait passer aucun test, on n'a pas rencontré de psychiatre. Moi, si tu me demandes mon avis, là, quand il s'agit du DSM, donc le Dictionnaire mondial des maladies mentales, là, quand il s'agit du DSM, ça devrait être un docteur en psychologie et ou un psychiatre qui se penche là-dessus en disant « Viens chez moi, je vais t'accueillir, puis parle-moi de ce que tu ressens, parle-moi de ta vie. » Puis avec un processus, avec quelques étapes, on peut en venir à dire « OK, ben ce serait peut-être une bonne chose d'avoir des hormones de testostérone pour amorcer ta transition. » Mais 9 minutes de consultation, pas de parents en place. Puis la petite fille, ce qu'on apprend, c'est que c'est une petite fille qui avait été envoyée par l'émission Enquête pour faire le reportage Trans Express. C'est hallucinant, ça.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont hallucinantes. Il y a le 9 minutes, effectivement, qui est frappant. Mais il y a d'autres choses qui sont très frappantes dans cette histoire-là. Bien, tout d'abord, on va le mettre en contexte, là, mais la majorité des gens qui nous écoutent le savent, mais on va quand même le clarifier. À l'âge de 14 ans, au Québec, n'importe quel jeune a droit à sa confidentialité pour consulter un professionnel de la santé, ce qui fait qu'à 14 ans, une jeune fille peut, par exemple, subir un avortement sans que ses parents soient au courant, sans que ses parents en soient informés.
En partant, ça a-tu de l'allure, ça? Hey, moi, j'ai toujours trouvé que c'était trop jeune. Là. Puis je te compte un fait vécu, là, au patron Charlebourg. Il y a une animatrice de 14 ans qui nous a avoué qu'elle avait vidé le pot de pilule et qu'elle a fait une tentative de suicide, puis on n'avait pas le droit d'appeler les parents.
Mmh, ouais.
Imagine là, comment moi, qui étais père à ce moment-là, d'ado de 12 ans,
ouais.
Je capotais ma vie. Là.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de scénarios qu'on peut élaborer où on se dit, ouais, 14 ans, c'est peut-être un peu jeune. En même temps, tous les jeunes n'ont pas la même qualité de parents, mais quand on nivelle par le bas en disant, ben oui, mais d'un coup que les parents n'ont pas d'allure, d'un coup qu'ils réagissent mal, on va baisser l'âge pour tous les parents du Québec, pour tous les jeunes du Québec, mais c'est là que ça
ferme,
pas bon sens.
Je ferme la parenthèse. D'un coup que ces parents-là l'auraient bien accompagné
ben oui,
dans sa tentative de suicide, ça arrive aussi.
Oui, oui, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Non, 14 ans, c'est jeune. Mais les éléments perturbants là-dedans, là, c'est aussi que ce reportage-là, cette jeune-là de 14 ans, est allée consulter cette médecin il y a 2 ans, dans le cadre d'un reportage à Enquête, il y a 2 ans. Et c'est 2 ans plus tard que... C'est 2 ans plus tard qu'on apprend que le Collège des médecins arrive avec une conclusion face à ça. Donc, il s'est écoulé quand même 2 ans entre cet événement où cette jeune de 14 ans se fait prescrire en 9 minutes de la testostérone et le moment où le Collège des médecins arrive avec une... J'ose même pas dire une sanction, parce que ce que le Collège des médecins, le syndic, est revenu en disant, on va donner aux médecins un manquement à l'article 46 du Code de déontologie des médecins. Donc, c'est un manquement. Le médecin a un manquement à son dossier. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de mesure disciplinaire.
C'était
plus
pas la première
manquement.
Fois qu'elle se faisait prendre, ce qu'on comprend.
Oui, et là, c'est moi, il y a aussi ça qui me perturbe, c'est que depuis, ben oui. Ça a pris 2 ans avant qu'on ait ce manquement-là à son dossier. Pendant ces 2 ans-là, elle a continué de pratiquer comme elle a toujours pratiqué, possiblement, parce que les conclusions de l'enquête arrivent du syndic du Collège des médecins, arrivent tard, 2 ans plus tard. Alors, ça pose beaucoup de questions. Le système est lent, c'est sûr, une enquête de syndic d'un ordre professionnel, c'est toujours long, mais quand même, ça pose aussi ces questions-là où la médecin a pu continuer de pratiquer comme elle voulait.
Les changements de genre à Sainte-Ève, selon moi, là, puis j'ai peut-être raté une étape, là, ça se peut, ça arrive souvent. Mes blondes me disaient ça dans le temps. Ça devrait être un psychiatre qui se penche là-dessus ou un docteur en psychologie. Mm-hmm. Pas un médecin omnipraticien ou encore un médecin omnipraticien qui est capable de travailler sur l'esthétique puis injecter des hommes et des femmes. Là. Ça prend un psychiatre ou un docteur en psychologie. C'est pas 9 minutes qui va faire en sorte que toi, tu vas décider... Ah ben OK, c'est beau, tu veux être un petit gars, ben tu vas être un petit gars, tu sais, voici ta bouteille de testostérone.
Ouais. Ben il faudrait ouvrir ce débat-là entre l'ordre au Collège des médecins pour savoir quels sont les types de professionnels. Je suis d'accord avec toi, c'est un trouble psychiatrique qui
ils vont probablement l'enlever dans les prochaines années,
ouais.
Dans le DSM, mais la seule et unique raison pour laquelle ils laissent dans le DSM c'est la dysphorie de genre, ouais, c'est ça. La dysphorie de genre, c'est que en le laissant dans le DSM, s'ils veulent faire des changements de sexe, c'est payé par le gouvernement.
Mm-hmm.
S'ils le sortent du DSM, ben là, ça va prendre un projet de loi pour dire, OK, ben dans le cas de ces chirurgies-là, c'est le gouvernement qui va le prendre en charge.
Ouais.
Pareil, même s'il n'est plus dans le dictionnaire des maladies mentales.
Ouais. Bien, de toute façon, on va falloir regarder aussi qu'est-ce que les autres juridictions partout sur la planète font, parce que l'histoire d'hommes et femmes, c'est pas mal universel à toutes les nationalités et à tous les pays. Alors, il faudra aussi se brancher sur ce qui se fait ailleurs dans le monde et la médecine, c'est universel, là. C'est pas juste une question de loi et de règlement.
Jacinthe-Ève, tu pensais-tu être débarrassée de François Legault à partir du moment où Christine Fréchette est couronnée comme nouvelle première ministre du Québec?
Ben non.
Tu pensais-tu te débarrasser de lui à tout jamais?
Mais non.
Non! Moi, je pensais qu'elle allait te débarrasser. Là, OK, c'est beau, avec les dommages que tu as causés au Québec, c'est beau, tu dégages. Ce que Max va nous apprendre, c'est pas ce que je pensais.
Communiqué qui a été envoyé dans les dernières minutes, François Legault a pris la décision de demeurer député de l'Assomption jusqu'à la fin du mandat.
Ah, il est quand même gentil.
Pour lui, c'est d'abord une question de responsabilité envers ses citoyens. Parfait, il voulait pas que les gens de l'Assomption se retrouvent sans député.
Ouais.
Il voit cette période-là comme une façon de clore sa carrière politique, a l'intention d'être actif dans son comté, de rencontrer les citoyens fidèles à ses priorités, veut profiter de ce rôle pour mettre en valeur et faire connaître les entreprises de l'Assomption.
OK, mais attends un peu, là. Jusque-là... Tout est positif.
Ouais.
Mais il pouvait pas avoir d'élection partielle parce qu'on était trop près des élections provinciales.
Je vous ramène à des nouvelles du 27 janvier dernier. On apprenait que s'il quittait avant la fin de son mandat,
mm-hmm.
François Legault renonçait à une indemnité de départ de près de 300 000 $. Fait que c'est une décision à 300 000 que François Legault vient de prendre.
Fait que s'il reste... Il se ramasse avec un petit bonus de 300 000.
Ouais, qu'il aurait pas eu
ben
s'il
avait quitté. Ben non, il l'a pas fait pour ça.
Ben non, je vous l'ai dit.
Il l'a fait pour ces gens de l'Assomption.
Ben oui, ils les aiment.
Ces gens de l'Assomption, comme premier ministre, ils étaient toujours dans son comté. L'Assomption, enfin. À en prendre soin.
Hey Jeff, ça fait combien de temps que t'as pas vu François Legault?
Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu?
Ouais.
Ben, je le vois, là, quand je regarde la période des questions à l'Assemblée nationale.
Ouais,
là.
Mais c'est assez tranquille.
Il se lève pour... Parce qu'il faut qu'il se lève.
Fait que mon oncle, là, il va accepter de ne plus être premier ministre, puis il va attendre d'avoir
imagine,
son chef de
il accepte de partir du premier siège, puis de se lever, à aller s'asseoir avec ceux qui n'ont jamais parlé à l'arrière pour 300 000 piastres.
Moi, je vais vous avancer un petit peu dans le temps, là.
Vas-y
le 13 avril, on a le couronnement
il va être ministre.
De la prochaine première ministre du Québec ou du prochain premier ministre.
Ben, elle ne sera pas ministre, là.
Ben, il pourrait être très bien être nommé, mettons, vice-premier ministre du Québec. Et là, avoir des fonctions un peu plus diplomatiques. Mais franchement, je pense pas qu'il va être député d'arrière-ban. Là.
Ouais, mais
là, non, il va faire partie du Conseil des ministres.
Ouais, mais attends,
c'est parce que. Là, on ne confiera pas un ministère avec un paquet de complications à gérer. Mais on va le mettre vice-premier ministre du Québec et il va rester dans l'ombre du premier ministre.
Google.
Ouais, mais c'est
Green Card. États-Unis. Yannick Nassau Green Card.
Ça serait.
Ça va de bon
sens, là. Mais, attends, stratégiquement, par exemple, je veux juste qu'on parle de stratégie politique deux secondes.
Ouais.
Il se tire dans le pied, le nouveau chef, s'il fait ça. C'est la continuité. Le monde tire la caque dehors. On peut pas faire ça.
Il peut faire ça. Il peut faire ça en disant M. François Legault va être vice-premier ministre du Québec jusqu'aux prochaines élections. Et aux prochaines élections, M. Legault pourrait annoncer qu'il ne se représentera pas, ce qui est pas mal attendu ou ce qu'on peut présumer de toute bonne foi, là, qu'il termine son mandat et ne se représente pas à l'automne. Donc, ça ne fait pas couler la coalition Avenir Québec au sondage le fait que François Legault était au Conseil des ministres.
Moi, je représente là, la majorité des Québécois qui, quand François Legault parle, on n'est plus capable de l'entendre. Tu n'es pas en train de me dire que je vais le réentendre. Là. Et bien en arrière. Même là, il ne faudrait pas qu'il soit en arrière. Il nous coûte 300 000.
Jeff, juste la présentation du budget puis de l'entendre dire que tout sourire, on laisse la maison en
ordre.
J'y criais au travers de ma télé. Pack tes bagages, décolisse!
Oh non, non, les points m'ont serré.
Puis là, Max m'apprend que s'il reste comme député, il va se ramasser un montant supplémentaire de 300 000.
De tes poches puis de mes poches, vierge.
Moi, je deviens barbier. Puis je charge cash.
Je comprends Sarto Lacroix qui veut pas payer ses impôts. Non. Ça s'en va là!
Non, faut pas dire ça. Oh! C'est incroyable. Je veux t'entendre sur les missions économiques ou les missions d'information. Là. Dans le cas du maire Marchand, c'est plus une mission d'information plutôt que d'une mission économique. Parlons des deux types de missions, celle économique puis celle où c'est des rencontres d'information avec des gens d'une autre ville, comme ça se passe actuellement à Calgary dans le dossier du tramway avec le maire Marchand. Qu'est-ce que tu vois de positif à ça puis qu'est-ce que tu vois de négatif?
Positif, c'est une très bonne idée, enfin, qu'il visite des villes nord-américaines. Ça, là, on lui a beaucoup reproché ses voyages en Europe où il allait prendre des exemples sur des cités, des villes qui n'avaient pas du tout, mais du tout, des éléments comparables, notamment par l'âge des villes, la densité urbaine, la capacité de ces villes et de ces États à ponctionner de l'argent via les taxes et les impôts, donc avoir plus d'argent pour payer des projets d'infrastructure, la densité urbaine. Donc, ça n'avait rien à voir. Les cultures différentes aussi. Donc, de visiter des villes américaines, c'est vraiment une très bonne idée. Parce que là, on compare des choses un peu plus comparables, même si Québec a ses particularités. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, bien, on ne cherche pas le glamour nécessairement dans les voyages. C'est bien beau, hein, aller à Amsterdam puis dans les Pays-Bas. Mais là, Calgary, Edmonton, on sent qu'on voyage pour aller concrètement voir les enjeux d'itinérance, les enjeux de transport en commun de villes similaires. Donc, je dirais que ça, c'est une bonne stratégie.
OK, je vais poser...
J'essaie d'en trouver d'autres.
Ben, c'est parce que, tu sais, moi...
Non, mais je trouve ça bon, ce que tu dis.
Je regardais la photo là, de ces missionnaires-là qui sont en mission à Calgary. C'est le maire, c'est son attaché de presse, c'est des conseillers à la ville, mais il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'urbaniste, il n'y a pas d'ingénieur.
Mm-hmm.
Somme toute, moi, les gens importants là, sur le dossier du tramway à Québec, c'est les architectes, les urbanistes, les ingénieurs. Le maire Marchand n'a aucune connaissance là-dedans. Les deux autres conseillers qui sont là n'ont aucune connaissance là-dedans. Il y a notre chum Fred Boisvert qui est là pour la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Lui, je trouve que c'est extrêmement pertinent d'être là parce qu'il va ramener l'information à ses membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Mais pour ce qui est du maire, je vois pas... Ce qu'il va apprendre là, je vois pas ce qui aurait pu être différent avec une belle petite conversation Zoom. Même chose pour ce qui est des conseillers. Pourquoi on n'amène pas cette équipe technique-là qui serait beaucoup plus pertinente?
Mm-hmm. C'est une bonne question. C'est sûr qu'on est dans le personnel politique, le personnel de représentation. Même quand tu dis le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie, quand même, c'est pas des donneurs d'ordre. Il n'y a aucune de ces personnes-là va vraiment être sur le terrain, prendre des décisions d'ingénierie sur le projet en tant que tel. Donc, on est vraiment dans la représentation politique avec l'équipe qui s'est déplacée, ce qui n'est pas mauvais parce qu'ils sont en mesure aussi d'aller voir leur vis-à-vis politique et dire, OK, quelles ont été les embûches avec les dépassements de coûts, parce qu'il y a eu, des enjeux, notamment à Edmonton, par exemple. On devait inaugurer le train léger en 2022, puis on s'est rendu compte que, je pense que c'est le deux tiers ou le tiers là, des piliers du train léger
avaient des failles dans la construction.
Oui, exactement. Donc, il y avait des fissures dans les piliers de béton.
Et voilà.
Fissures dans les piliers de béton. Imagine, toi, t'arrives.
Non, c'est ça.
Quand j'ai lu ça, je disais, hey, Colin, ça ressemble au Québec. Ça, c'est notre genre. Hein?
Ouais, ouais,
on arrive
ouais.
pour inaugurer, puis wow, il y a le tiers des piliers de béton qui a des fissures dans le béton. Qui a fourni de la mauvaise qualité de béton ou qui a escamoté le travail? Donc, ça, c'est bien parce qu'on va sur le terrain se rendre compte des enjeux qui peuvent arriver, puis comment le politique, comment le personnel qui représente les projets face aux citoyens, comment ils se sont débrouillés avec ça, comment la circulation urbaine aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, notamment à Calgary, avec le trafic urbain que ça cause, ces travaux-là. Là, on s'embarque pour 7 ans de travaux et de perturbations dans nos propres rues ici à Québec pour détourner le trafic pendant la construction.
Justement, tu penses quoi du timing de cette mission-là? Parce que ça commence demain, les perturbations.
Oui,
mais les responsables des communications sont à Edmonton pendant Alberta, la semaine avant.
Ouais, ben j'essaie d'être positive dans mes commentaires, mais c'est
super. Tout ce que tu as dit, je le pense.
Ouais.
Mais ceci dit, call-in que c'est pas le bon timing.
C'est très tard. C'est très, très tard pour aller voir ce qui se passe dans une ville de grandeur équivalente. Ou un petit peu, c'est un peu plus gros, là, Edmonton et Calgary, en densité urbaine par rapport à Québec. Mais c'est tard pour y aller. Vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée qui arrive tardivement. Il y a un élément important qu'il faut mentionner, là, par exemple. Hein? La configuration d'Edmonton et de Calgary, ce sont des terrains très plats. Hein?
Exact.
Ouais.
C'est des plaines. C'est pas du tout le cas à Québec. On a une autre ville, une basse ville. On a beaucoup de collines et de côtes importantes en plus. Donc déjà, on a une grande différence entre les réalités. Et l'autre grande différence, c'est que Québec a été construite bien avant Edmonton et Calgary. Donc Edmonton et Calgary, ce sont des villes un peu plus modernes que la ville de Québec. Donc la ville de Québec a joué avec une configuration non seulement de collines et de côtes, mais aussi une configuration de ville qui a été construite il y a plus longtemps, donc des chemins plus étroits. Beaucoup moins de place dans les rues. Edmonton, Calgary, on a de l'espace. Là. C'est large. Il y en avait de l'espace à l'époque, puis il y en a encore de l'espace. Donc, ça a été construit dans une perspective nord-américaine de « on en a de la place ». Fait que fait la rue, puis les bâtiments ne sont pas collés sur la rue. Il y a des bons espaces de dégagement entre les bâtiments et les rues. Les rues sont larges, il y a de la place pour passer. Ici, c'est autre chose. L'autre différence fondamentale aussi, c'est que nous, on a décidé d'y aller avec un tramway sur une dalle de béton. La dalle de béton, là, complique beaucoup les choses. Et ça, c'est pas une décision qui a été prise ni pour Calgary, ni pour Edmonton. Et nous, ça va nous apporter des gros enjeux. Parce que qui dit dalle de béton, vous le savez, là, on a tous travaillé à un moment donné sur un patio, sur des jobs de construction. Avec le gel-dégel, il faut creuser. Et il faut creuser en bas de la ligne de gel-dégel. Et qui dit creuser, ben dit arriver dans les infrastructures souterraines, risquer d'arriver face à des conduites d'eau,
Ça a tout été prévu. Les conduites d'eau sont toutes tassées pour qu'on ait pu à travailler en dessous de la dalle de béton. On se posait la question, Jeff, puis moi, avec Max, en début de semaine. Ottawa, c'est un bel endroit aussi pour aller regarder le tramway là-bas. Pourquoi Ottawa plutôt qu'Edmonton?
Il n'est pas allé à Ottawa. Je dis ça sous toute réserve.
Non, pas encore, honnêtement. Je pense pas.
C'est-tu
parce que c'est moins joli comme décor?
Il faut qu'il y aille, c'est sûr. Faut aller à Ottawa parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à Ottawa.
C'est moins intéressant,
c'est à
5 heures de route. Il faut qu'il aille en char.
Ouais. Non, j'espère que s'il n'est pas allé, c'est...
Il n'est pas été.
C'est wow. Non. Ça fait partie des éléments à voir, surtout qu'il y a eu des gros problèmes, il y en a encore des problèmes, notamment de panne, aussitôt qu'il y a un peu de glace, aussitôt qu'il y a un peu de neige.
Mais le REM à Montréal.
Ici à Québec, on va avoir encore plus de neige et de glace que toutes ces villes qu'on vient de nommer. Hein. Même Calgary et Edmonton, on dit que c'est des villes hivernales, mais il n'y a rien qui bat Québec en termes de quantité de neige.
Exact. Dernier sujet avec toi, Pierre Poilievre, qui est allé au podcast de Joe Rogan, le podcast le plus écouté dans le monde.
Ouais.
Est-ce que c'est trop tard pour y aller? On aurait peut-être peut-être apprécié qu'il puisse aller chez Joe Rogan, peut-être un peu avant les élections fédérales?
C'est le commentaire que j'ai fait sur mes réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'il aurait dû y aller durant la campagne électorale ou avant la dernière campagne électorale fédérale. Et j'assume cette critique-là et je l'assume d'autant plus que je l'ai lu là, des centaines de fois par plusieurs membres du Parti conservateur du Canada, plusieurs influenceurs, plusieurs podcasteurs, plusieurs voix importantes dans le monde conservateur d'un océan à l'autre. Là. C'est même pas juste au Québec. Partout au Canada, les voix fortes conservatrices disent trop peu, trop tard, il aurait dû y aller il y a un an. Bon, tant mieux, enfin, au moins il va maintenant. On se console, on se dit, bon, au moins il est allé maintenant. Mais l'approche du Parti conservateur de ne pas y aller durant la campagne électorale, ça a été une approche prudente. Je peux la comprendre aussi, même si je la critique, là, je la comprends, parce qu'on a mené une campagne électorale où on positionnait Mark Carney comme un sauveur et on positionnait aussi, on l'a entendu beaucoup, on positionnait Pierre Poilievre comme un populiste, on l'a traité de trumpiste ou on l'a traité de mini-Trump du Canada. Donc, imaginez s'il était allé sur un podcast américain où le podcasteur Joe Rogan a toujours été démocrate toute sa vie, mais a supporté, dans la dernière campagne électorale, a supporté Donald Trump. Alors là, Les grands médias font des raccourcis intellectuels et disent « Ah, Joe Rogan, c'est un trumpiste. » Pas du tout.
Ouais, il a supporté... Joe Rogan, je peux te confirmer qu'à cette heure, il était peut-être un peu moins proche de Trump. Là.
Oui, absolument. Non. Donc, c'est pas parce qu'il l'a supporté à un moment dans sa campagne, Trump, qu'il n'y a pas de discernement et qu'il a toujours été un républicain, loin de là. Joe Rogan, c'est un grand démocrate si on suit sa carrière depuis longtemps. Mais c'est sûr que si on effleure le sujet, ben là, il y a des mauvaises voix pour vous dire que c'est un supporteur de Trump. C'est pas tout à fait exact. Donc, c'est vrai, ça aurait pu nuire à l'image de Pierre Poilievre. D'ailleurs, juste de voir la couverture maintenant, il n'y a aucun risque d'aller au podcast le plus écouté au monde, là, je vous le dis, là, c'est des dizaines de millions de personnes qui écoutent ce podcast-là.
Puis il a fait bonne figure.
Il a fait bonne figure, absolument. Beaucoup de gens qui disaient « Hey, faire un podcast aussi long, il peut se mettre les pieds dans la bouche. » Franchement, si vous vous attendez d'un futur premier ministre qui se mette les pieds dans la bouche après parler pendant 2 heures... Je sais pas, je trouve que nos critères sont assez bas au Canada.
Non, il a fait face à Joe Rogan. Ben oui. À un moment donné, on a parlé du 51e État, puis Pierre Poilievre a mentionné très clairement que ça n'arrivera jamais. Ouais. Il a complètement évacué ça.
Il a fait attention aux pleurs de banane Justin Trudeau. Ouais. Donc, t'es vraiment... Ben moi, en tout cas, quand Radio-Canada et les médias de Québécois disent que Pierre Poilievre a fait bonne figure à Joe Rogan, je me dis, ça veut dire qu'il a vraiment fait bonne figure.
Oui, puis il y a un gros bout de la conversation. Il y a des gros bouts qui portent sur les arts martiaux. Ils partagent les deux, une passion pour les arts martiaux. Mais il y a une grosse portion de la conversation aussi qui tourne autour de la santé. Hein. Puis ça, je trouve ça intéressant et inspirant de voir qu'un aspirant premier ministre s'intéresse à des questions de santé. Mais là, pas la question de manger 5 portions de fruits et légumes par jour que je me faisais dire quand moi, vieille femme, me faisait dire quand j'étais en deuxième année à l'école primaire. Là. En 2026, les questions de santé, c'est quoi? Les agents de conservation qu'il y a dans notre nourriture, les colorants alimentaires, ils ont parlé de colorants alimentaires, la manière dont on fait pousser le blé dans les champs et que finalement on utilise du Roundup, du glyphosate, toutes sortes d'ajouts chimiques pour s'assurer d'avoir une production industrielle plus performante, mais qui sont parfois des perturbateurs endocriniens, qui sont parfois des éléments cancérigènes dans notre nourriture. On est dans un discours qui est beaucoup plus en cohérence avec ce que les vrais passionnés de santé parlent en 2026. Et là, c'était inspirant de voir qu'on sortait peut-être un peu du discours très, très traditionnel qui est complètement passé date.
Mais Jacinthe, t'as pas assez lu le Guide alimentaire canadien. Tu l'as pas assez écouté parce qu'il reste encore quelques dizaines de légumes à l'Assemblée nationale.
Marceau, je t'ai dit que c'était non.
Désolé. Bon vendredi, Jacinthe.
Bonne fin de journée.
Salut, un plaisir. On se reparle vendredi prochain pour le Pit Stop.
Max! Il y a quelques petits problèmes encore une fois à la circulation, là, même que pour un vendredi, ça en est un tough. L'accès au pont Pierre-Laporte, un petit peu de ralentissement, c'est vraiment pas là que c'est le pire, là. C'est vraiment capital dans les deux directions. Direction ouest, entre Seigneurial et Laurentienne, c'est jamais. Direction est, c'est de l'entrée par Encadre jusqu'à à peu près Robert Bourassa. Et je vous rappelle qu'en raison de... selon ce qu'on nous dit par texto, là, un genre de rassemblement religieux dans le coin du centre Vidéotron d'Exposité, tout ça, là, est un bon bordel à matin.